Les arènes de l'écologie sur Aligre FM.
Tous les mercredis de 19h à 20h.
Le combat du siècle.
Planète contre humanité.
L'enjeu est énorme, on sait déjà que la planète finira par gagner.
Mais combien de temps tiendra encore l'humanité ?
Eh bien, bonjour à tous, nous voici dans les arènes de l'écologie. Tous les mercredis de 19 à 20h avec Ben qui est revenu de Nice et puis Nicole qui est revenue chez nous pour continuer à parler des océans. Et on aura tout à l'heure aussi Monsieur Denis Lacroix qui est un spécialiste de l'IFREMER. Donc l'IFREMER, l'Institut de recherche sur, comme son nom l'indique, sur la mer. Donc il nous parlera un petit peu des perspectives pour l'océan. Mais pour commencer, puisqu'on a notre grand reporter qui est revenu, donc Ben, comment ça s'est passé l'UNOC
moi,
à Nice?
Je croyais au départ que c'était le monde du silence.
Oui.
Parce que bon, Cousteau et tout ça, j'étais persuadé que c'était le monde du silence. Mais non, pas du tout. François, je dois t'avertir, mais je crois que tu es au courant que ça grouille sous la surface de l'eau. Mais il y a un autre monde du silence. L'autre monde du silence auquel j'ai pensé, c'est, au fond, c'est toutes les petites histoires qu'on ne nous raconte pas. Et, par exemple, parce que je sais que tu as besoin d'exemples.
Ah, moi je suis quelqu'un de concret.
Si tu réduis la vitesse de certains tankers, de la plupart de ceux qui font le tour du monde au nom du transport maritime, qui représente 90 ou 95% des marchandises, le simple fait de réduire de 50% permettrait, au fond, aussi de réduire l'empreinte carbone de tout le trafic maritime. Et le trafic maritime, ça fait partie d'une des grandes inconnues.
Oui, mais on attend déjà 3 semaines pour avoir nos colis de
Tu voudrais que ça aille encore plus vite?
Ah non, je ne suis pas très pressé, mais bon, j'en connais qui sont très pressés. Tu leur dis maintenant un mois et demi, oulala.
C'est en tout cas un débat au sein de la AMO, l'Organisation Maritime Internationale. Je sais que tu préfères en français, donc je le dis
oui,
en français.
Oui, je préfère. Hein.
Mais c'est typiquement le genre de problème où à la fois tu as les enjeux économiques, tu as les enjeux technologiques et tu as l'enjeu environnemental clé. C'est typiquement le genre de choses qui sont discutées, mais à la marge. Donc ça, c'est intéressant aussi. Alors, bien sûr, je peux te parler de l'impression générale.
Exactement, c'est ça, c'est ce à quoi je m'attendais, ce que je t'avais demandé.
Ouais, il faut toujours...
Ouais, il faut que tu toujours
parler,
tu te singularises. Hein.
Non.
Bon allez, t'as 1 minute 30 pour nous parler de l'impression générale.
On peut considérer de façon tout à fait légitime que c'est une réussite. Simple fait d'avoir eu cet événement à Nice, dans le cadre de la diplomatie française, costaricaine aussi, le simple fait que ça se passe à un moment clé dans l'histoire récente, où on est en train de découvrir, plutôt que de redécouvrir, en quoi les océans, c'est quand même quelque chose de vital, et ça fait pas seulement marcher le monde, et le monde de la marchandise, mais ça fait partie aussi d'une nouvelle réflexion sur, je dirais, la globalité des océans. Et c'est un univers en soi et que c'est quelque chose qu'il faut prendre comme un tout.
D'accord. Alors ça, effectivement, c'était une des révélations qu'on s'est fait la semaine dernière. Bon, tu n'avais peut-être pas un bon retour, mais c'est vrai qu'on avait eu l'impression que les océans ont toujours été traités par l'utilité qu'on pouvait en faire. Un coup c'était la pêche, un coup c'était le transport, mais qu'on avait toujours eu du mal à voir ce plus grand écosystème du monde dans son entité, dans sa globalité. Donc c'est ça. Puis il nous dit que c'est Nice a donné cette impression-là déjà.
On sent en tout cas que c'est la sensibilisation du monde par rapport même à Unoc 1 ou Unoc 2 à Lisbonne. Ouais, on sent vraiment une
prise de conscience mondiale.
Ouais, ça serait peut-être un peu...
Un grand mot.
Un peu gros, mais il y a certains éléments qui viennent donner un peu de piment à tout ça. C'est notamment la question qui était complètement passée sous silence, qui était l'exploration des fonds marins. Ça, paradoxalement, grâce à Trump, on peut considérer qu'aujourd'hui, c'est la préoccupation aussi d'un certain nombre d'États. Au départ, donc il y a un an, c'était vraiment une préoccupation de très peu d'États, dont la France, qui parlait de moratoire, etc. Mais il y en avait vraiment très peu. Aujourd'hui, il y en a entre 32 et 33 qui sont en train de dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans les fonds marins. Ça aussi, c'est un plus. Dans
parce
la diplomatie.
Qu'on ne les connaît pas, c'est un écosystème qui est en majorité inconnu. On n'a exploré que 5% de l'océan. On connaît mieux la Lune que les fonds marins de notre planète.
D'accord. Mais c'est inerte ou pas, les fonds marins ?
Non, pas du tout. Justement, c'est des écosystèmes pleins de vie. On a vu les cheminées dans les dorsales océaniques. On a découvert des espèces qu'on n'imaginait pas, qui vivent dans l'obscurité totale, qui sont très colorées, très vivantes. Et c'est une très riche biodiversité. Et cette biodiversité, elle est inconnue.
D'accord, totalement.
Pratiquement, on commence un peu à explorer, mais on a exploré 5% de la surface au niveau des reliefs et au niveau de la biodiversité, c'est pareil. On connaît très très peu, un petit pourcentage de ce qui existe.
D'accord.
Donc on ne peut pas commencer à les détruire avant de les connaître,
non,
c'est aberrant.
Non, ce serait pas tout à fait charitable.
Ça sera en tout cas un argument de poids dans les négociations. C'est de pouvoir redire, maintenant, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi parce que vous ne pouvez pas, aujourd'hui, déterminer les conséquences.
D'accord. Bon, vous allez encore bousculer mon petit chemin de fer,
désolé,
d'habitude. Ça va encore s'écrouler.
Nicole fait ça très bien, il n'y a pas de problème.
Bon, on avait dit que l'Unoc, c'était un petit peu comme une grande commode avec différents tiroirs et qu'on allait les ouvrir les uns après les autres. Bon, voilà, vous avez déjà commencé au moins à donner le sommaire, une partie du sommaire d'ailleurs. Mais parce que je peux pas résister, moi, au plaisir tout de même de vous donner les nouvelles de Roquechlore.
Ah bah
quand même. Et c'est vrai
qu'on veut savoir ce que pense notre ministre.
Alors pense, ça j'aurais pas réussi à faire parce que je n'ai pas toutes les informations qu'il faut, mais j'ai au moins ce petit agenda qui est quand même assez sympa et qui nous permet de au moins découvrir les activités de notre ministre. Alors très honnêtement, moi je pensais qu'elle allait après une période intense prendre un peu de repos quoi, de souffler. Je sais pas, c'est comme ça que font les communs des mortels, non ? Eh bien non. Eh bien, imaginez-vous que c'est reparti c'est reparti à 14h30 lundi matin. Bon, oui, c'est vrai, fait grâce mat le lundi. Bon, bah oui, quand on est ministre, on peut se permettre. Et c'est reparti sur d'autres sujets, c'est vrai, qui sont tout à fait aussi préoccupants et qu'il ne fallait pas non plus forcément mettre sous l'éteignoir. Alors, ça a commencé par la question de la mutualisation des risques climatiques. Alors, c'est vrai que ça commence à brûler, la maison brûle et puis les assureurs se mordent les doigts. Effectivement, c'est parti avec un entretien avec Clément Beaune, donc un ex-ministre débarqué du gouvernement précédent, qui est aujourd'hui au commissaire au plan. Et donc, ils ont ouvert une réflexion. Faut-il repenser la mutualisation des risques climatiques ? Alors, c'était donc à Avenue de Ségur, dans les anciens palais du ministère de l'Environnement. La ministre est partie au Luxembourg pour le Conseil Environnement. Ça a pris toute la journée de mardi. Bon, c'est vrai que c'est pas elle qui décide de l'agenda. Mais c'est vrai que qu'est-ce qui peut bien se passer dans ces conseils d'environnement ? Il va falloir qu'on trouve quand même des petites fenêtres ou d'envoyer des petites souris pour en savoir plus. parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'échos sur ce genre de sujet. Bon, j'imagine qu'avec les autres ministres de l'Environnement, on doit essayer de traiter des sujets importants. Mercredi, bon, c'était l'ouverture à l'ADEME. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'on avait voulu faire une émission sur ce sujet, c'est sur le service public écologique. Alors, donc, c'est le service volontaire pour l'écologie. Bon, c'est un sujet d'émission qu'il va falloir qu'on remette au goût du jour.
Et c'est piloté par l'ADEME, tu dis ?
Exactement. L'événement se tenait à l'ADEME. Et donc, par l'agence du service civique dédiée donc, qui fêtait son premier anniversaire. Donc, pour ce qui est de la partie service public écologique. Bon, au final, on apprend quand même des choses. Alors, c'est sous la gouverne de Marie Barzac, ministre des Sports et des Jeux Olympiques, si tant est... Ah oui, c'est vrai qu'il va y avoir les Jeux Olympiques d'hiver. Alors ça, franchement, j'ai du mal à m'y faire.
On pourra faire une émission spéciale, si tu veux.
Oui, on va passer. Alors après, en rendez-vous avec Sébastien Martin, un illustre inconnu pour ce qui me concerne, président de l'intercommunalité de France. Alors ça me parle plus. Je trouve ça, c'est très important, les intercommunalités. C'est souvent décrié, mais c'est quand même très important. On y reviendra peut-être un jour sur, je dirais, les questions écologiques du quotidien, eau, air, déchets. Ensuite, bon, c'était peut-être plus caché, il y avait une audition par le groupe d'études Chasse et Pêche, co-présidé par Daniel Le Baronne, un député d'Indre-et-Loire EPR. Non, il ne fait pas du nucléaire, hein, c'est effectivement Ensemble pour la République, donc le groupe parlementaire des macronistes, et avec Christophe Blanchet, les démocrates, qui sont eux les députés du Modem. Donc voilà, donc chasse et pêche, et donc c'était pas la chasse et la pêche de la mer, hein, pour le coup, hein, c'était plutôt dans les rivières. Donc voilà, ils ont eu une audience. C'est vrai que bon, on peut se demander aussi de quoi ils parlent. Il faudra qu'on essaye de se renseigner. Et ensuite, il y avait la clôture de la 16e journée de la Caserie Assurance. On y revient. Donc la question des assurances pourrait peut-être devenir un grand sujet des prochains mois et voire années des questions environnementales. Bon, ensuite, jeudi, entretien avec... alors là, tu vas m'excuser, Ben, avec un nom...
L'accent.
Wopke Hoekstra, commissaire européen au climat, et donc un monsieur néerlandais.
Exactement.
Voilà, donc un ancien ministre de l'économie, et puis aussi un ancien responsable de Seychelles, et puis de je ne sais plus quelle autre boîte de conseil. Ce qui m'aurait bien intéressé, j'aurais bien aimé être là, c'était un entretien avec Wu Wang Runqiu, le ministre de l'Environnement et de l'Écologie de la République populaire de Chine. Bon, alors, il paraît que sur sa fiche Wikipédia, c'est un géologue, mais j'en ai pas pu en savoir beaucoup plus. Mais je pense que ce serait quand même très intéressant de pouvoir ouvrir les micros sur ce genre de rencontre. On essaiera de proposer ça, Madame le Ministre, qu'elle puisse nous faire bénéficier un petit peu de ces sujets. Et puis pour terminer, demain soir, donc rendez-vous avec un entretien avec Augustin Augier. Alors donc, ça, Augustin Augier, vous ne devez pas savoir qui c'est. Je ne savais pas non plus. En fait, c'est le secrétaire général à la planification écologique qui remplace au bout de 4 mois, voire 5, Antoine Pélion, qui était l'ancien titulaire du poste et qu'on avait invité. Et comme par hasard, il a démissionné à peu près le lendemain. C'est vrai que ça fait quand même un emploi du temps bien chargé. Bon, on a connu puir des agendas de Mme Agnès Pannier-Runacher, mais bon, après une semaine intense à Nice, on ne peut pas dire qu'elle se repose. Hein. Bon, vendredi, c'est déplacement dans les Hauts-de-France. Je ne sais pas si elle
veut... Tu veux dire, François, qu'il n'y a pas eu de relais au niveau du ministère de ce qui se passait à Nice ?
Ah si, parce si, si,
était sur place quand même.
Ah bah si, il y a eu plein de petits relais, mais bon, on va pas rentrer dans la tambouille journalistique, mais si, maintenant ça travaille avec des boucles WhatsApp, etc., et c'est ça, c'est bien embrouillé sur les aires marines protégées, alors bon, franchement... des batailles de chiffres, c'est pas toujours d'une... Bon, je ne sais pas comment ils s'y prennent, mais ça pourrait être plus simple. Bon, On va passer notre petite pause musicale et puis on va revenir ouvrir la commode tiroir par tiroir de cette UNOC, troisième du nom, mais appelé à... S'ils ont annoncé qu'il y en aurait un quatrième, Ben.
Oui, c'est prévu.
Bon, bah, c'est parfait. Absolument. Bon, bah, écoutez,
on a les dates et tout.
Super, on va écouter un petit peu de musique et puis on va repasser après.
Très bien.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Monte la mer et on descend. Il y a des rails sous l'océan. Un labyrinthe, un tourbillon. Et dans l'écume sont les visions. Des anémones à
Eh bien, nous voici revenus dans les arènes de l'écologie sur Alir FM, donc le mercredi, en présence de Ben Kramer, de Nick Alking et de moi-même, François Delaunay. Écoutez, les amis, donc c'est le moment de faire un petit peu le bilan de ce grand événement. Alors, c'est vrai qu'on va prendre 15 minutes pour tirer un bilan d'une très grande opération. Ben. Les tiroirs essentiels. Donc, tu as commencé à évoquer les fonds marins. Il y a eu aussi.
Il y a le rôle des ONG.
Les
nouveaux acteurs, au fond.
Oui, ça, on en parlera peut-être après dans le débat gouvernance qu'on fera avec M. Denis Lacroix, si on essaye d'organiser les choses.
Les tiroirs.
Voilà. Donc, là, on va prendre les tiroirs thématiques. Donc, il y a effectivement les aires marines protégées. Il y avait aussi la biodiversité. Donc, le fameux Nicole, toi qui sais pas dire ça dans...
La pollution plastique.
Voilà.
Moi, je pense qu'il faut parler d'abord du BBNJ.
Alors.
C'est-à-dire le nouveau traité international pour la protection de la biodiversité marine en haute mer. Il faut comprendre la situation. Actuellement, les pays ont des zones économiques exclusives sous leur responsabilité qui couvrent un tiers des océans. Ce qui veut dire que les deux tiers ne sont pas couverts par le droit. Oui. Et ça, c'est le grand progrès qui est le résultat le plus positif, probablement le plus important à mon avis, enfin, un des plus importants, c'est que ce nouveau traité va être ratifié par 60 pays, presque, n'est-ce pas ? On les a presque, on les va les avoir. Donc, on va avoir un vrai traité international pour les zones qui n'étaient jamais protégées, jamais régulées. Et ça, c'est indispensable pour la biodiversité marine qui est en surpêche, qui est en effondrement. C'est vraiment un effondrement de la vie. Et donc, il faut savoir que les techniques de pêche industrielle non réglementées, non surveillées, elles jettent 75% de ce qu'elles attrapent. Hein, c'est l'association Bloom parle de ça en détail. Et ce n'est pas régulé. Donc maintenant, avec ce nouveau traité, on a un espoir. On aura création d'aires marines protégées, qui seront encadrées grâce à ce traité. Et on vise 30% pour 2030. C'est les chiffres officiels. On espère, c'est le but espéré. Ouais. Mais en tout cas, on a un traité maintenant. Avant, il n'y avait rien. Donc, c'est un grand pas en avant.
Bon, on arrête le Far West, quoi.
Voilà.
Et donc, par contre, il va falloir des shérifs. Il va falloir mettre en place des moyens de surveillance. Et puis, donc, ça a été évoqué ou pas ?
Oui, bien sûr. Il y aura des moyens technologiques par satellite, avec l'intelligence artificielle, ils ont commencé à réfléchir à tout ça. Mais d'abord, il fallait avoir les 60 pays. Ça n'a commencé qu'il y a 2 ans. C'est la France qui a été leader dans ce domaine, qui a lancé cette idée. Et là, quand même, il faut reconnaître à Macron qu'il a obtenu un grand succès parce qu'on ne pensait pas avoir les 60 pays cette année et on les aura cette année. Ça veut dire que le traité, il va être appliqué, il sera ratifié et en 2026, on devrait avoir un traité fonctionnel qui permettra la première fois la création d'aires marines protégées dans les zones de haute mer qui n'avaient aucun traité international avant.
Aucune loi, quoi.
Voilà.
Donc c'est la fin du laisser-faire et du faire n'importe quoi.
Voilà, et c'est pour arrêter de faire ce gaspillage éhonté des ressources marines et de laisser ces bateaux qui sont non réglementés, non surveillés, qui se cachent, qui pêchent souvent la nuit pour ne pas être repérés.
D'accord.
Oui, non, mais c'est important parce que c'est aussi le summum de l'éco-criminalité qui est... qui se répand, et que là, on veut y mettre un frein. C'est l'équivalent d'un Interpol qu'on pourrait aussi avoir sur les océans.
Bon, bah, il va falloir rendre ça un petit peu concret, parce que, dit comme
oui,
ça,
oui.
C'est vrai qu'on ne regarde pas tous la mer, hein, tout le temps. Donc,
non, mais maintenant, on a des satellites partout. Donc on voit des photos de ces bateaux. Vous avez vu quand Macron est passé à la télé l'autre soir, il y avait Thomas Pesquet qui a montré des photos
de
ces bateaux qu'on voyait.
Surpêche,
on les voyait éclairer la nuit. Tous ces bateaux-là étaient des bateaux illégaux.
Bon, eh ben, ok, on va savoir que c'était illégal et quel moyen de coercition on pourra avoir.
Ben justement, ça va être le boulot des gens qui vont mettre en application ce traité. Mais au moins, on a le droit international qui avance. Avant, il n'y avait rien. Donc, c'est grâce au droit qu'on arrivera à protéger. Parce que sans droit, on ne peut rien.
C'est comme s'il n'y avait pas de code de la route, quoi.
Voilà, exactement.
Bon, oui, c'est vrai que ça a été...
C'est une expression un peu terrienne, et terre à terre.
Oui, non, mais...
je vois
le code de la mer, maintenant.
Certes.
On essaye de te maritimiser un peu.
Oui, mais j'aime bien ramener les choses à des choses compréhensibles. Et d'ailleurs, c'est un peu le but de l'émission, c'est rendre l'écologie préhensible.
C'est vrai, c'est vrai.
Et compréhensible également.
Et dans le cadre de la diplomatie bleue, ça fait partie quand même des grandes avancées.
Ok, bon.
Suite à Nice.
Allez, quoi d'autre?
Pollution plastique.
Pollution plastique, voilà. Alors.
Ça aussi, c'est un tiroir qui mérite d'être vraiment... je pense qu'il y a, plusieurs choses dans l'affaire de...
La pollution plastique.
La pollution plastique. Mais Nicole, je parle sous ton contrôle. Mais l'un des grands problèmes, c'est justement ce lobby extraordinaire qui existe aujourd'hui et qui veut continuer.
Alors, le lobby de quoi ? Donc, des producteurs de plastique, j'imagine.
Eh oui,
Et les producteurs et les de producteurs, pétrole.
Les producteurs de, oui, de toutes les énergies fossiles, et qui, eux, ne sont pas du tout prêts à renoncer. Ils l'ont même dit, ils l'ont même affirmé, et ça a été d'ailleurs la cause de l'échec de la conférence précédente. En Corée du Sud, n'est-ce pas ?
Oui.
Donc, là, y a de nouveaux rapports de force qui devront s'installer.
On a le problème que l'Amérique n'était pas là, les États-Unis. Et c'est eux qui produisent le plus de plastique au monde avec la Chine.
Oui, alors aujourd'hui, quand on parle de plastique, donc c'est de la pétrochimie. C'est effectivement gens qui vont chercher du pétrole, certes. Mais aujourd'hui, nous, on avait Rhône Poulenc. C'est qui les grands noms en France de la pétrochimie qui produisent des plastiques, hein?
Je sais pas.
Ça, c'est vrai que ça change souvent de nom.
Bon, mais c'est pas les noms qui comptent. Ce qui compte, c'est les quantités.
Oui.
Les quantités, il faut savoir que par an, ça parle en dizaines de millions de tonnes par an qui sont rejetées dans la mer. C'est-à-dire environ un camion poubelle toutes les quelques minutes entre dans l'océan.
Ouais. Donc ça, c'est une mauvaise gestion des déchets parce que on avait mis en place des lois en 92.
Ça ne suffit pas, la gestion des déchets. Il faut empêcher la production à la source.
Oui, absolument. C'est là qu'il faut... Là, on est en train aussi de passer un cap. On arrête de dire
qu'on va traiter les déchets. Il y en a trop. Ils ne sont pas capables de les traiter. Ce sont des plastiques qui sont tous différents. Il y en a qui ne se recyclent pas. On ne peut plus gérer ça. La mer se remplit de plastique. Dans quelques temps, il y aura plus de plastique que de poissons. C'est d'ailleurs déjà le cas. Quand un poisson cherche à manger, il a une chance sur deux de manger du plastique. Ouais. Donc,
et bientôt, nous aussi.
Et nous, on est plein de plastique aussi.
Pourquoi quand dans les filets, on trouve plein de plastique, alors?
Dans les poissons, déjà.
Oui.
Dans les oiseaux, j'ai d'ailleurs fait une toile qui s'appelle « Le prince des nuées ». Où j'ai fait un albatros rempli de plastique. Quand il meurt
Dans les tortues, Nicole.
Et dans les tortues aussi. J'ai fait beaucoup de peintures avec des tortues, avec des sacs plastiques qu'elles prennent pour des méduses.
Bon, alors, sur les plastiques, c'est quoi? C'est régulé, c'est limiter la production.
Il faut une économie qui empêche d'abord les plastiques à usage unique.
Ouais.
C'est
ouais.
le premier but.
Bon, ça, il y a eu des petits poids de prise en.
Il y a d'abord en France, oui, mais il faut que le monde entier s'y mette, parce que la France, c'est un tout petit pourcentage. C'est... Et puis, il faut arrêter d'en produire autant, parce que là, si on laisse la roue tourner comme elle tourne actuellement, ça va doubler dans les années qui viennent, la production de plastique. Or, on a déjà des continents de plastique qui font 6 fois la France en milieu de l'océan. Chaque océan a des gyres, on appelle ça le 7e continent. Et ces plastiques, ils sont déjà là. Donc, on attend quoi? Que la mer soit complètement remplie de plastique avant d'arrêter d'en produire? Et les gens, ils pensaient quoi? Que ça arrivait où? On était très étonnés quand on a découvert ce continent de plastique. Mais évidemment, que tout arrive dans la mer. C'est ça qu'il faut dire qui est très, très important. C'est que tous ces plastiques viennent de la terre. C'est-à-dire que les déchets qui arrivent dans la mer, 80% viennent de la terre. Les rivières les amènent. Le climat, les rivières et la mer, tout est lié.
Ok, donc c'est effectivement réguler les plastiques, limiter les productions de plastique à usage unique.
À la source, parce que le traitement ne suffit pas.
Et effectivement, peut-être... en tout cas, c'est vrai qu'il y a, y a un scandale, c'est effectivement d'exporter les plastiques dans les pays, notamment... asiatique. Normalement, c'était interdit. Il y a quelque chose qu'il va falloir que...
Mais là, chacun peut faire quelque chose. Tout le monde peut acheter en vrac. Tout le monde peut aller avec son propre sac acheter des choses. C'est pas obligé de prendre à chaque fois des emballages en plastique ou des boîtes. Enfin...
Manifestement, les choses ont un peu évolué. Il n'y a plus de sacs plastiques jetables aux caisses des supermarchés. Chacun maintenant a son cabas. Bon, grosso modo, on s'en est sorti.
Pour l'instant,
quoi.
Ça augmente toujours, la production de plastique. Ne
ah, par contre, les emballages, la poubelle d'emballage, je suis surpris, moi, même à la maison.
C'est plein.
Ça
quand vous allez au restaurant japonais, nous, on essaye d'avoir nos propres boîtes. Ils n'en veulent pas. Ils ne nous vendent pas les sushis si on vient avec nos boîtes. Ils veulent nous vendre leurs boîtes. Du coup, on a une poubelle pleine de boîtes de sushis. Donc moi, je suis contre maintenant d'aller au restaurant japonais si c'est pour jeter un kilo de plastique à chaque fois. Enfin, c'est aberrant.
Alors, donc, pollution plastique, ça a avancé là-dessus, donc on a eu des résultats.
Pollution plastique, c'est, je crois, c'est début nouveau traité. Août, début août à Genève, qu'il y aura des négociations qui concernent ce sujet en particulier.
Oui, il y a un traité qui est dans les tuyaux, qui va aboutir.
D'accord, bon. Quoi d'autre alors ?
Et après, on aura le même phénomène que dans d'autres négociations diplomatiques, c'est de trouver un nombre suffisant d'États qui sont prêts à ratifier. Et ouais. Une fois que c'est ratifié...
Et on en est où alors ?
Ben, ça a avancé.
Bon, oui, mais certes. Mais combien ?
On n'est pas encore...
On est autour de 30, je crois.
Ouais, voilà,
quelque chose comme ça.
Ouais. On est encore loin du but, hein, quand même.
Oui, mais ça avance.
Oui, d'accord.
C'est...
Alors, donc là, on va bientôt pouvoir aborder la gouvernance des océans avec Denis Lacroix qui nous attend. Alors, je sais plus s'il est Alors, je sais qu'il habite à Montpellier, mais je crois que là, il est dans un colloque à
Lyon.
À Lyon
ou à Bordeaux.
Ouais. Il nous dira. Donc, on va laisser passer une petite pause musicale et puis on va accueillir Denis Lacroix juste après la musique.
Ma grippe vous va très bien,
m'a dit mon amant ce soir.
Ça vous donne un joli teint, ça vous va mieux que le noir. Ma grippe vous va très bien.
Souffrez que je tousse un peu, lui ai-je dit d'un air doux. Souffrez que je souffre un peu, j'ai parfois très mauvais goût. Souffrez que je souffre un peu.
Quand vous souffrez, mon ami,
m'a répondu mon amant,
vous ressemblez à la pluie, je trouve ça très saillant. Quand vous souffrez, mon ami,
j'ai un peu peur et je dis que les larmes me vieillissent. Et j'ai un peu peur aussi que la fièvre m'enlaidisse. J'ai un peu peur et je dis.
Elles vous vont comme un gant, vous savez bien que vos larmes me plaisent beaucoup vraiment. Votre fièvre a bien du charme, elles vous vont comme un gant, 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 gant.
Ah vraiment, je suis trop maigre, je sens que je m'affaiblis. N'avez-vous pas de vinaigre? Voyez mes bras et je dis. Oh, vraiment, je suis trop maigre.
Mais ces os vous vont très bien,
m'a répondu mon amant.
Ne vous inquiétez de rien, ça vous donne un air troublant. La mort vous ira très bien.
Aligre FM 93.1.
Eh bien, nous voici revenus dans les arènes avec Denis Lacroix. Est-ce qu'il est en ligne ? Est-ce qu'il m'entend ? Denis, bonsoir. Eh bien, peut-être que Denis a perdu la liaison. Monsieur Lacroix, auriez-vous perdu la ligne ? Alors, Nicole, tu nous disais qu'il y avait d'autres thèmes qui auraient été importants de traiter, notamment la finance bleue.
Oui, c'est-à-dire que c'est pas mal de rappeler que juste avant l'UNOC, il y a eu d'autres événements très importants qui ont eu lieu à cette occasion. Du coup, les gens du monde entier se sont retrouvés d'abord pour parler de la science pour les océans. Et ensuite, à Monte Carlo, il y a eu la finance bleue. Il faut savoir que, alors que 40% de notre économie dépend des océans, il n'y a que très peu d'argent qui est directement investi pour la recherche pour l'océan. Donc, on a besoin de ce genre de rencontres. Voilà. Et donc, il y avait un article très intéressant dans Le Monde sur ça, qui disait qu'en fait, il n'y a que 1% de la finance qui va vers l'océan.
D'accord.
Alors que 40% des activités en dépendent. Donc, c'est déséquilibré.
D'accord. Alors, on me dit que Denis est revenu, Monsieur Lacroix est en ligne. Bon, bah, écoutez, on va continuer sur la finance bleue. Il y a manifestement un problème de liaison. C'est les joies du direct.
Objectif du développement durable numéro 14.
Oui.
C'est l'ODD la moins fournie d'un point de vue financier. C'est celle qui, on ne sait pas pourquoi, mais on aimerait le savoir. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu cette rencontre à Monaco. Sur la question du financement. Comment se fait-il qu'il y a tellement peu d'argent? Et c'est ce que dit Nicole aussi.
Alors,
qu'il y a une sorte de déséquilibre.
Donc ça, c'est...
Alors maintenant, il y a un appel aux entreprises. Parce qu'en fait, les entreprises ne sont pas conscientes que leurs activités dépendent autant que ça de l'océan. Elles n'y pensent pas assez. Elles ne se rendent pas compte que les ressources, ce qu'elles fabriquent, tout ça, ça arrive ou ça vient ou c'est transporté. C'est lié à l'océan, en fait. La majorité des activités économiques passent à un moment par l'océan ou par des ressources marines. Donc, il faut investir dedans et il faut étudier les solutions écologiques.
Et oui, c'est pour ça que...
Et donc là, j'ai trouvé très intéressant ces nouvelles sociétés qui créent des produits faits à base de coquilles d'huîtres. Ils font par exemple des pavés imperméables pour le sol. Ils font des plans de travail à base de coquillages. Ils font du cuir avec de la peau de poisson. C'est très, très positif. C'est tout nouveau, ça. Mais il n'y a pas assez d'investissement. L'océan, c'est notre grenier de solutions pour l'avenir. Mmh. C'est ce que j'ai dit dans mon livre, parce que je viens de publier un livre qui s'appelle « Pour une eau vivante ». Qui a 4 chapitres sur 5 sont sur l'océan. C'est un livre qui est illustré de mes peintures militantes écologiques. Et dedans, je parle de tout ça. Je parle en fait que l'océan, c'est notre avenir. C'est lui qui va nous donner plein de solutions pour notre avenir. Et donc, il faut le respecter. Il faut investir pour le connaître mieux et trouver des solutions en lien avec cette économie bleue.
Bon, eh bien, écoutez, on a retrouvé M. Lacroix, les joies du direct. Donc, bah écoutez, Monsieur Lacroix, je vous ai un petit peu présenté tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez continuer? Donc, effectivement, alors vous êtes où déjà ce soir? Vous êtes à Bordeaux, c'est bien ça?
Non. Je suis à Montpellier, où je participe à une réunion du groupe interacadémique pour le développement qui travaille avec le Centre international des hautes études méditerranéennes. Et donc, j'apporte un petit peu mon grain de sel, la partie aquatique, eau douce et eau de mer. Voilà.
D'accord. Donc, dans un colloque, une réunion de scientifiques. Alors, donc, je vous ai présenté comme un spécialiste de l'Ifremer des crevettes, ce qui a beaucoup intéressé notre amie Nicole King, qui est spécialiste aussi de la mer et qui est aujourd'hui artiste très inspiré par les océans. Et donc aussi comme vos activités actuelles, c'est plutôt penser l'avenir des océans. Et donc vous faites partie des comités de futuribles.
Prospective,
voilà. Je perdais le mot, et puis tous ces ennuis techniques me font perdre mes moyens, je suis désolé. Donc la question que je me posais, après ce colloque, dont cette conférence internationale de l'UNOC, on disait que c'était un peu la fin du no man's land, donc on s'avance vers une réglementation des océans. Comment vous voyez-vous la gouvernance? Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas aujourd'hui de pilote dans l'avion, ou il n'y a pas de capitaine à la passerelle. Voilà, voilà, c'est une meilleure image.
C'est mieux que pilote.
Voilà. Alors, moi, je serais moins pessimiste que vous. Ce n'est pas parce que un certain nombre d'États ont fait des déclarations unilatérales que le système des Nations Unies s'arrête. La haute mer avait les deux tiers donc de l'océan sont gouvernés par un petit nombre de traités. qui sont assez peu contraignants, notamment celui de la liberté de navigation. Hein. Mmh. Il existe depuis une vingtaine d'années un traité sur les fonds marins, hein, qui délivre des permis d'exploration et éventuellement des permis d'exploitation. Il y a un certain nombre de pays qui se sont inscrits. Donc, des grands pays mènent des recherches là-dessus, dont la France. Vous avez également des traités pour tout ce qui concerne le respect de règles de navigation, de sécurité, etc. Mais il manquait surtout, il y avait un gros trou sur le vivant dans la colonne d'eau. Hein, et la pêche n'était pas réglementée de manière précise, ni le respect de la biodiversité. Donc on a fait un grand pas en avant vers ce traité. Moi, je voudrais dire, de toute manière, même s'il y a des pays qui ne veulent pas respecter ce type d'accord, le monde entier a besoin de régulation sur un des deux biens communs de l'humanité, qui est, après l'air, l'eau.
Oui, effectivement, c'est quand même le plus grand écosystème de la planète. C'est vrai que c'est surprenant quand on y réfléchit un tout petit peu de se dire qu'il n'y avait pas de règles du jeu, quoi, ou du moins pas suffisamment. Donc il y avait des choses pour la surface, pour le transport. Il y avait des amorces de traités sur le fond. Et par contre, ce que vous appelez la colonne d'eau, bon, c'est quoi? C'est 5000 mètres d'eau, quoi, en moyenne, si je ne m'abuse.
Alors, c'est pas une amorce hein, pour ce qui concerne le fond. Il y a un vrai traité qui existe. Hein.
D'accord.
Il s'appelle l'ISA, l'International Seabed Authority, qui gère les permis. On ne peut pas faire n'importe quoi sur le fond de l'océan. En français, c'est l'Autorité Internationale pour les Fonds Marins, l'AIFM. Et donc, la Chine, quand elle veut explorer un carré d'océan, elle dépose un permis, elle paye un droit d'études, et ensuite, donc elle a ce droit-là pendant 5 ans, ensuite elle doit le renouveler, etc. Donc c'est pas une amorce, hein, il existe un traité qui est peu contraignant, mais il existe.
D'accord.
Donc ce qu'il faudra, c'est le durcir, notamment s'il y a des systèmes d'exploitation qui apparaissent. Alors pour la colonne d'eau, bon, l'épaisseur moyenne de l'océan, c'est 3,5 km, 3500 mètres. Okay. Et donc c'est un domaine extrêmement complexe, puisque au-delà de 200 mètres, la lumière ne pénètre plus. Mais vous avez sur la couche superficielle, donc le gazon, je dirais, de la mer, c'est-à-dire le phytoplancton qui se reproduit à très grande échelle hein, sur une épaisseur et non pas seulement comme une surface hein, sur la terre. Et donc ça génère de la matière vivante qui ensuite est récupérée par le zooplancton, le plancton animal, qui lui-même ensuite est absorbé, grignoté par toutes les espèces qu'il y a dans la mer. Et ça se termine par les plus grands mammifères, enfin les plus grands animaux sur Terre, hein, les baleines, hein, qui dépassent les 100 tonnes et qui donc peuvent se nourrir donc directement sur l'océan. Sur Terre, malheureusement, ces animaux n'auraient pas disparu depuis longtemps. Donc vous voyez, c'est quand même un potentiel pour nourrir le vivant qui est considérable.
Effectivement, c'est vrai que c'est un écosystème en trois dimensions comme on n'en a pas sur Terre. C'est, de ce point de vue-là, c'est un monde tout à fait à part. Et est-ce qu'on peut dire qu'on le connaît? Oui, on le connaît pas suffisamment et on s'en imprègne pas même. Donc on a.
Alors on le connaît mal pour la raison que vous avez citée, c'est que déjà il est en trois dimensions. Sur Terre, bon, quand on balise un terrain, même dans la forêt amazonienne, qui est un petit peu à trois dimensions puisqu'il y a la hauteur de la forêt, mais la hauteur de la forêt au maximum, c'est des arbres qui font 30-40 mètres de haut. Mais après, c'est fini. Donc on peut explorer depuis ce qu'on appelle la canopée, c'est-à-dire la surface des arbres. D'ailleurs, on a fait beaucoup de découvertes intéressantes jusqu'au sous-sol. Il y a énormément d'espèces, c'est extrêmement riche. Mais il faut multiplier ça sur 100 fois ça dans l'océan.
Ouais.
Et donc c'est ça qui est intéressant. Et en plus, tout ça se déplace. Sur Terre, ça bouge pas. Alors que dans l'océan, ça se déplace avec les courants en fonction de la température, des courants de salinité. Et tout ça est en mouvement dans un immense ruban qui se déploie sur des dizaines de milliers de kilomètres. Donc c'est beaucoup plus complexe à comprendre. Alors on connaît peu cet univers. On considère qu'on a exploré de manière précise qu'à peu près 5% de la surface de la mer, hein, enfin du fond, pardon. Parle de la surface du fond de la mer, ce qui est très petit, hein. Et chaque fois qu'on fait une exploration, on tombe sur des espèces nouvelles. Donc, on peut dire que le plus grand réservoir de biodiversité aujourd'hui sur Terre, c'est bien la mer.
Et Et c'est vrai qu'on n'a pas eu une attention suffisante. Donc c'est ça un petit peu le bilan de cette histoire, c'est qu'on s'aperçoit peut-être 70 ans après l'apparition du Monde du silence de Cousteau, en fait là c'est plutôt le monde de l'inconnu au final, que ça reste les terres incognitas, peut-être les dernières de la planète. Et c'est vrai que quand on pense que le monde maritime a été un champ d'exploration depuis le XVIe siècle, pour faire simple, c'est vrai qu'on aura, comment dire, exploré la surface, mais sans prendre conscience de toute cette dimension.
La richesse,
oui.
Oui, c'est tout à fait vrai ce que vous dites. Mais pour une raison très simple, c'est que d'abord, on ne voit rien en dessous de 200 mètres, donc c'est le noir absolu, il y a des pressions énormes, c'est un milieu extrêmement hostile quand même. Hein. Vous n'avez pas beaucoup de milieux aussi hostiles que celui-là sur Terre. C'est la première chose. Et puis deuxièmement, on avait des idées fausses. Moi, quand j'ai fait mes études, bon, je ne suis pas un vieillard quand même, hein, quand j'ai fait mes études, on n'imaginait pas qu'il puisse y avoir de la vie au-delà d'une certaine profondeur, parce qu'on pensait que toute la vie procédait de la photosynthèse. Et puis, et donc, comme il n'y a pas de lumière au fond des océans, on disait, ben, par déduction, il ne peut pas y avoir de vie. Or, on a découvert, et ça a été une des grandes surprises scientifiques de siècle dernier, hein, dans les années 70, que ben, il y avait de la vie dont l'énergie ne provenait pas de la lumière, mais de la chimiosynthèse, c'est-à-dire la transformation d'éléments chimiques, et qui donnait de l'énergie pour fournir des écosystèmes complets, la dynamique, une des dynamiques du vivant. Et ça, c'était tout à fait exceptionnel et remarquable.
Donc en fait, on en est presque...
On commence à mieux comprendre ça.
Mais on en est qu'au début, quoi.
C'est important de comprendre avant d'essayer d'exploiter ces fonds marins.
Donc c'est ça qui est un peu particulier. On a l'impression que la mer, c'est quelque chose...
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
D'infini, mais surtout qu'on est lié à la mer depuis la nuit des temps, pour reprendre une expression bien connue. Et au final, non, c'est beaucoup plus récent que ça, quoi. On en a usé, mais on l'a pas connu, quoi. C'est un peu ça le constat.
Oui, vous avez raison. On la connaît très mal, alors qu'en fait, on en vient. Ouais. Hein, on sait que la vie est apparue grâce au fait qu'il y a eu de l'eau sur Terre. Alors, la Terre a à peu près 5 milliards d'années, l'eau arrive à peu près à 4 milliards d'années, probablement avec des comètes, hein, des comètes de glace, hein, qui bombardent la Terre, et petit à petit, l'eau, au lieu d'être vaporisée, rentre à l'état liquide. Alors, la soupe donc d'éléments chimiques issus de la Terre et des volcans, et puis de l'eau liquide, bah, permet l'émergence d'organismes très très primitifs, hein, qui invente la photosynthèse, transforme l'énergie lumineuse en matière organique. Et après, c'est toute la chaîne du vivant qui se développe sur des durées extrêmement longues, hein, avec des systèmes de mutation, d'évolution, de sélection, de catastrophe, puisqu'on sait qu'il y a eu 5 grandes extinctions, oui, avant notre ère. Donc vous voyez, on peut dire que vraiment, d'ailleurs ce qui est tout à fait amusant, c'est que la densité en minéraux de notre sang est la même que celle de la mer. Donc nous sommes en équilibre osmotique, comme on dit, hein,
oui,
chimique, avec la mer.
Et on n'en a absolument pas conscience. Alors justement, cette prise de conscience de la mer par l'humanité, comment vous la voyez dans les prochaines années? Est-ce qu'il faut une gouvernance des océans? Est-ce qu'il faut
quel type de gouvernance?
Quel type de gouvernance? Est-ce qu'il faut une FAO de la mer ou un OMS de la mer?
Oui, c'est une question très pertinente. Est-ce qu'on va vers un organe, une commission des Nations Unies dédiée à la mer? Alors, c'est souhaitable parce que ça permettrait de la considérer de manière plus globale, et ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire un lien entre les continents. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a déjà beaucoup de travaux qui sont menés via des structures, hein, des Nations Unies. La FAO que vous avez citée s'occupe de la pêche et de l'aquaculture, donc une partie des ressources que fournit la mer. Le programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE, il s'occupe des aspects d'environnement, y compris marins. Donc, l'Organisation internationale du commerce intègre des règles pour la navigation, puisque 85% de ce que nous consommons a pris la mer. Donc vous voyez, chacune des grandes commissions opérationnelles des Nations Unies dispose d'une dimension marine. L'idée, ça serait d'intégrer tous ces aspects-là pour avoir une vision globale de la mer. Alors, la gouvernance internationale, je dirais qu'on en a absolument besoin parce que y a des mers frontalières qui séparent beaucoup d'États. Et si on ne gère pas collectivement la mer, qui par définition est un élément liquide qui se déplace, eh bien, on va au-devant de gros problèmes. On ne peut pas mettre de barbelés sur la mer, donc il faut apprendre à se parler.
D'accord. Donc
jolie formule.
Oui, tout à fait. Donc la mer est un territoire sans frontières. Et donc, il n'y a que l'intelligence et la capacité à échanger et à construire ensemble qui pourront tracer un destin à l'océan et à l'humanité. Vous le voyez dans quelles échéances ? C'est un rêve pour 2100 quand on sera parti, ou c'est quelque chose qu'il va falloir que notre génération puissions réussir pour la passer aux générations suivantes qui sont déjà...
Alors, moi, je suis assez relativement optimiste parce que bon, on dit que les choses s'accélèrent et on a beaucoup de mal pour s'adapter, etc. C'est vrai, en partie. Aujourd'hui, on sait de plus en plus de choses sur la mer. Avant, on ne savait pas grand-chose. Donc on savait pas qu'on faisait mal, notamment. J'ai entendu avant dans l'émission citer beaucoup de choses sur les plastiques. C'est tout à fait vrai. Hein. On n'imaginait pas que nos plastiques puissent se retrouver à une telle échelle dans la mer. Donc là, il y a une partie de prise de conscience. Et ça, c'est absolument nécessaire. C'est pour ça que la réunion des Nations Unies sur l'océan, à Nice, pendant une semaine, a contribué à cette prise de conscience. Bon, mais il faut bien voir que ça prendra du temps. Alors, est-ce que c'est dans très longtemps ? Moi, je ne crois pas. Je pense que c'est à l'échelle d'une génération. En 25 ans, je pense qu'on sera passé au-delà de la prise de conscience pour aller vers la prise de décision. Alors on va pas tout résoudre d'un seul coup lors d'une grande conférence. Hein. Je ne crois pas du tout à la grande conférence décisionnelle, à quelque chose qui rallierait d'un seul coup tous les pays. Mais je pense que si des pays actifs, comme l'Union européenne par exemple, hein, ou un certain nombre de pays de bonne volonté qui ont des territoires marins importants, je pense notamment à l'Australie, au Japon, en Amérique du Sud, et des pays qui ont compris la nécessité de gérer collectivement cet espace-là, sinon on allait tout perdre. Eh bien, s'ils montrent la voie qu'une gestion, je dirais, en bon père de famille, d'un espace qui est vraiment un bien commun de l'humanité, tant pour les ressources qu'il a, les ressources énergétiques, vivantes bien sûr, minérales, et tous les services qu'il rend, hein. On n'a même pas parlé de bien-être, de tourisme, bon, et sans compter toutes les molécules d'un très grand intérêt, notamment au plan thérapeutique, hein, qui peuvent être tirées de la mer. Donc c'est notre intérêt bien compris de protéger ce gisement exceptionnel de ressources.
Mais par contre, effectivement, en termes de temps, vous voyez ça sur 25 ans, sur une, grosso modo, c'est le temps d'une carrière professionnelle, quoi. Et aujourd'hui, si ça peut être tout à fait un secteur porteur pour des jeunes qui voudraient s'impliquer et faire quelque chose de leur donner du sens à leur à leur vie, que de choisir une voie, alors je ne vais pas dire une voie maritime parce que ce serait une confusion, mais s'intéresser à la mer, il y a quelque chose à faire, y compris pour construire sa vie, quoi.
Oui, je pense que c'est un bel avenir. Il y a beaucoup de métiers en lien avec la mer. Hein. Ça va de la protection de la nature, ça peut être du patrimoine, à l'aménagement des littoraux, à la construction navale, à la construction de structures flottantes, pas seulement pour y mettre des éoliennes, mais bientôt pour y habiter. Bon, évidemment, regardez la révolution qui se passe actuellement dans les transports. Bon, il va falloir décarboner l'économie. Or, un des plus grands réservoirs d'énergie du monde, c'est la mer. C'est une énergie infinie en plus, puisqu'elle est générée par tous les grands mouvements.
Alors, j'ai pas eu le temps de télécharger votre
température, etc.
J'ai pas eu le temps de télécharger votre livre sur le sujet, mais effectivement, pour les auditeurs qui voudraient en savoir plus sur Quae, on peut aller retrouver vos livres. Et il y en a un sur notamment sur l'énergie. Je voulais vous poser une toute petite question, puisque vous êtes aussi professeur, vous m'avez dit dans plusieurs écoles. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en pénurie de jeunes, de vocations, ou au contraire, vous voyez arriver de plus en plus de jeunes intéressés par ces sujets ?
Ah non, je suis pas en pénurie de vocation. Je reçois beaucoup de jeunes qui me posent des questions, est-ce qu'ils peuvent faire des stages, ça intéresse beaucoup. Alors évidemment, c'est extrêmement varié comme secteur. Hein. Dans les cours à l'ENSTA, ils s'intéressent beaucoup aux aspects d'énergie. Dans les cours que je donne à Supagro à Montpellier, c'est plutôt les aspects de ressources vivantes, d'aquaculture. À l'université, c'est plutôt de l'aménagement du littoral, de l'information des élus. Donc vous voyez, il y a beaucoup de métiers différents. Et même dans les cours que je donne dans l'université au nord de l'Europe, là il y a la coopération internationale, il y a la protection du patrimoine. Donc je pense que c'est vraiment un grand gisement. C'est une belle aventure qui peut intéresser beaucoup de jeunes. D'accord. Selon leur goût.
Même des terriens comme La Pérouse, qui était un de mes héros favoris de ma jeunesse, qui était un terrien, est devenu un des très grands navigateurs et explorateurs français. Donc, même des jeunes terriens peuvent s'intéresser à la mer. On n'est pas obligé d'être né sur le bord du littoral pour pouvoir aller s'intéresser à ces sujets-là.
Bien sûr que non. Vous voyez, moi, je suis lyonnais. Vous voyez, et à 20 ans, je suis parti courir les océans par le biais de la science. Et puis, je suis revenu longtemps après. Beaucoup de... Il n'est pas nécessaire d'être breton, normand ou corse pour être légitime sur la mer. Mais bon, bien sûr, c'est quelque chose qui va intéresser un nombre croissant, je dirais, de jeunes, dans des métiers qui sont encore largement à découvrir, à inventer, notamment je pense aux drones. Mmh. Aujourd'hui, quand on dit drone, on pense beaucoup à des drones aériens, mais bientôt, on aura, d'ailleurs ça existe, mais c'est pas encore très développé, drones sous-marins, comprendre ce que peut nous apporter.
Donc, monsieur Lacroix, là,
sous-marins ou amphibies, c'est un défi très passionnant.
Je suis désolé, on est rattrapé par les vagues du temps on me presse de conclure et de boucler l'antenne. Donc il me faut remercier l'équipe technique pour leur aide, cette liaison. Et puis, ce soir à la technique, on a René Clanny qui nous vient de... avec son charmant accent américain, qu'il faudra qu'on passe à l'antenne un jour quand même, Armand Gury, et puis Renaud Poussin, voilà. Donc on les remercie tous. Alors la semaine prochaine, ce sera une émission sur l'agriculture, une agriculture sans pesticides est-elle possible ? Ce sera avec un scientifique de l'INRA, Olivier Nora, qui vient de publier aussi chez Quae, puisque on peut retrouver aussi le dernier livre de Denis Lacroix chez Quae, et puis aussi un autre chez Hermann. Mais bon, tout ça, vous pourrez retrouver les informations sur le site de l'émission. Bon, merci beaucoup encore, monsieur Lacroix. Ben, tu voulais... un tout petit mot.
Nicole voulait peut-être mentionner.
Oui, Nicole.
Moi, si je peux vous dire juste que je vais avoir une exposition à l'université de Troyes de technologie fin septembre pour le mois d'octobre. Et ensuite, elle ira dans une médiathèque à la Chapelle Saint-Luc, Art et sciences pour l'océan.
Voilà. Parfait. Eh bien, on vous remercie beaucoup. Et puis, à bientôt, monsieur Lacroix.
Merci beaucoup.
Bonne semaine.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.